camp Interclimat, une émission présentée par Fabrice Coustet sur Bâti Radio.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'En attendant Interclimat. Sixième numéro déjà, Interclimat, on le rappelle, le salon historique de tous les acteurs de la filière du génie climatique. Dans la construction, les fabricants, les distributeurs, les installateurs, les bureaux d'études, les maîtres d'œuvre, les entreprises de maintenance et d'exploitation, les maîtrises d'ouvrage, j'en passe, et des meilleurs vont tous se retrouver du 3 au 6 octobre 2022. Ce sera en plein Paris, porte de Versailles. Pour animer ce numéro, je suis bien sûr en compagnie d'Hugues Edjans. Bonjour Hugues.
Bonjour Fabrice.
Chargé de mission Interclimat 2022 par Uniclimat. Où en est-on du salon depuis la dernière émission, Hugues?
Eh bien, à fin juin ce mois-ci, donc, on sera à 3 mois d'ouverture du salon. Donc voilà, ça se précise.
Ça approche.
Voilà. Donc aujourd'hui, il y a 98% de la surface qui est commercialisée, plus de 200 exposants inscrits. Le hall 3, donc, dans lequel se tient Interclimat, est plein. On peut le dire. On a lancé 1500 places de TGV, une quarantaine de bus. On a encore du travail à faire sur les conférences. Et la nouvelle du jour, presque du jour, hein, c'était hier, ouverture des inscriptions aux visiteurs. Donc voilà, ça se précise.
D'accord, c'est le moment. 98% de la surface commercialisée, ça veut dire que voilà, on est quasi complet.
Oui, il reste quelques petits stands, il y a quelques négociations qui sont encore en cours, des décisions qui n'ont pas encore été prises, des histoires de signatures, mais voilà, c'est quasiment fait. Il doit rester quelques petits stands de 9 mètres carrés, puisque tout est modulaire hein, sur cette édition, par-ci, par-là.
Voilà. Très bien, bon bah voilà, quelques petits stands qui restent pour les retardataires. Alors comme d'habitude, vos rubriques préférées, dans quelques instants, les coulisses d'Interclimat, ça sera avec Violaine Olgasto. Bonjour Violaine.
Bonjour Fabrice.
Chargée de communication, responsable technique, filtration, épuration pour la qualité de l'air chez Uniclimat. Voilà, on saura tout dans quelques instants sur un focus, hein, sur un élément d'animation du salon, s'intéresser à l'espace innovation et performance. Juste après le partenaire du mois, on reçoit cette semaine Maxence Olivard. Bonjour Maxence.
Bonjour Fabrice.
Ingénieur du pôle formation chez Qualité ENR, organisme de certification des professionnels. Bienvenue à vous. Les awards de l'innovation, on décrypte un award. Alors c'était les awards de 2019. Que sont-ils devenus? Eh bien évidemment, on va tout savoir avec Jordan Mercier, qui est directeur commercial France d'AD. Bonjour Jordan.
Bonjour à tous, heureux de vous rejoindre.
Voilà, vous nous parlerez de cette innovation et peut-être des innovations 2022. On sait qu'elles sont nombreuses chez AD. AD, fabricant de filtres et matériel de traitement d'eau pour les réseaux de chauffage. L'exposant du mois, Emmanuel Bavou. Bonjour.
Bonjour.
Emmanuel, vous êtes responsable du pôle marché à la direction de développement délégation marché grand public chez GRDF, donc le distributeur de gaz naturel en France. Et enfin, on terminera avec notre expert, Emmanuel Léger. Bonjour.
Bonjour Fabrice.
Emmanuel, vous êtes ingénieur commercial au CETIAT, référent technique solaire thermique. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, on démarre avec les coulisses d'Interclimat.
En attendant Interclimat, les coulisses.
Voilà, et dans les coulisses, on retrouve Violaine Olgasto. Vous allez nous parler, Violaine, ce mois-ci, de l'espace innovation et performance qui va tenir une place assez particulière au sein du salon.
Alors, au sein du salon, et je dirais même à l'entrée du salon, parce que cet espace innovation-performance, on le veut comme une vitrine, donner envie aux visiteurs de découvrir alors, un certain nombre de choses. Alors, cet espace, il est multiple, donc je vais vous donner un peu les différents temps. Mais c'est vrai que c'est vraiment ce qu'on a voulu. Alors, déjà en 2019, on avait initié quelque chose, mais là, on a changé la formule. Tout est ouvert, grand, lumineux, et permettra vraiment aux visiteurs qui s'engagent dans le salon à découvrir un certain nombre de choses et à parcourir l'ensemble des allées du salon pour voir un peu tout ce qui bouge. Et ça bouge beaucoup dans nos professions.
Voilà, on aura en particulier une vision très rapide sur le 6 startups, c'est ça, du génie climatique. De quoi s'agit-il exactement ?
Alors, comme je vous disais, il y a plusieurs formats, on va dire, dans innovation et performance. Il y a effectivement un endroit où on va retrouver des startups. Je vous ai fait une petite sélection là de trois startups que je vais vous présenter. Il y a des industriels exposants ou non, d'ailleurs, qui ont déjà un stand dans le pavillon 3, mais qui montrent là quelque chose de spécifiques, parce que ce sont des petits îlots, hein, donc vous pouvez vraiment zoomer sur quelque chose. Vous avez également dans cet endroit des pitchs de tous ceux qui ont participé au concours de l'innovation. Donc ça va tourner, et ça, ceux qui sont venus en 2019 ont déjà vu la formule. Vous avez quelques minutes, c'est très court, mais pour présenter ce que vous aviez mis dans le concours de l'innovation, que vous ayez gagné ou pas. Et puis encore un autre format, ce sont deux pods avec le vote du public. Donc là, chacun peut être amené à voter en fait sur la borne, sur le produit qui lui semble soit le plus innovant, soit vraiment engageant en termes de performance. Mmh. Et enfin, eh bien comme c'est à l'entrée du salon, eh bien c'est un endroit où on va beaucoup échanger, où on aura des prises de parole, où on aura un certain nombre de temps forts. Donc vraiment un lieu que vous n'allez pas louper en venant sur le salon dans le pavillon 3.
Ouais, un véritable forum, voire une agora, puisque les gens vont pouvoir voter également. Vote des visiteurs, tout le monde pourra voter pendant les 4 jours, ou il faudra se dépêcher au début peut-être?
Non, là après, voilà, tout le monde peut voter, c'est vraiment ouvert. On a le concours d'innovation, c'est un jury d'experts, mais là, pour le coup, c'est vraiment un vote du public, donc des participants au salon.
Bon, bah voilà, on a hâte d'y être, bien évidemment. On y sera hein, d'ailleurs avec Radio Patrimoine. Je pense qu'on fera aussi pas mal de reportages. On ira voir évidemment les startups et au-delà, bah, tous les exposants, bien évidemment.
Alors sur les startups, j'y reviens parce que je vous ai dit en intro que j'allais zoomer un petit peu. Alors j'en ai pris trois comme ça qui sont déjà inscrits. Alors la société Equium, donc ils sont en Loire-Atlantique. Ils ont un nouveau système pompe à chaleur thermoacoustique. Du coup, ça permet de travailler sur la thermique, l'acoustique, la mécanique du fluide. Enfin voilà, donc on les suit, on les voit depuis un moment, et ce sera l'occasion encore de d'échanger avec eux. Stratoclair, là on parle de chauffe-eau solaire donc individuel. Donc voilà, c'est aussi une façon, et ils ont vraiment pas mal de travaux d'installation déjà en Bretagne, donc une façon aussi de mieux montrer tout ce qui est déjà réalisable dans ce domaine, puisque le solaire thermique est pas toujours hyper bien traité dans nos chantiers. Donc là voilà, pourquoi pas aller voir un peu cette start-up. Et puis j'en ai sélectionné une autre qui s'appelle Vigilia IoT Service. Ils sont dans la région parisienne, dans les Yvelines, et eux, c'est de la supervision temps réel des chaufferies collectivités. Et là, on est en plein dans la recherche de comment est-ce qu'on peut améliorer les performances et autres, et un peu comme la qualité de l'air, on en a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission, mais en fait, quand on compte l'énergie, quand on voit de quoi il s'agit, eh bien, à ce moment-là, oui, on peut commencer à voir sur là où on peut faire des économies. Et comment ça peut être intéressant pour des collectivités. Alors ils ont ça aussi. Alors ils ont mis des choses en œuvre dans la ville des Ulysses et dans certaines entreprises. Donc ils viendront expliquer tout ça, présenter leur innovation. Et je vous ai dit qu'il y avait aussi des fabricants, donc dont certains ont un stand dans le pavillon. Donc on retrouvera Francer, Frisquet est déjà inscrit également, Burger Out. Donc tous ces industriels qui sont ou sur la ventilation ou sur l'évacuation des produits de combustion sont là pour zoomer, comme je vous disais tout à l'heure, sur un produit dans leur fabrication pour pouvoir mettre un peu en exergue quelque chose qu'on ne verrait pas sur un stand de 99 mètres carrés.
Ouais, et c'est vrai que je vous cache pas que l'énergie du son proposée par Equium, là, dont vous nous avez parlé, eh ben voilà, on connaît l'énergie solaire, l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne, puis l'énergie du son à découvrir donc sur.
Ouais, c'est un procédé qui promet d'être assez révolutionnaire. Donc on a hâte de le découvrir, effectivement. Ouais.
Et puis Hugues disait en introduction, on est presque plein. Et ben, je vous annonce une bonne nouvelle, c'est que sur cet espace innovation performance, il reste encore quelques pods. Donc voilà, nous on sait que on pourra accueillir encore quelques entreprises dans cette vitrine à l'entrée du pavillon.
Bon, excellente nouvelle. Il faut quand même se dépêcher puisque c'est vrai qu'après il y aura la trêve estivale, même si vous n'allez pas chômer. Et après, ça va arriver très très vite, hein, 3 au 6 octobre, on le rappelle. Merci Violaine pour cette présentation de cet espace innovation et performance, on l'a compris, qui se tiendra au cœur du salon et même à l'entrée. On ne pourra pas le rater. Tout de suite, on passe au partenaire du mois.
En attendant Interclimat, le partenaire.
Hugues, on regarde tout de suite quel est le partenaire du mois, Qualit ENR. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ?
Yannick Tuener, bon, peut-être que je laisserai lui-même dire un mot. En fait, c'est un organisme de qualification qui est spécialisé dans les énergies renouvelables, hein, et qui a un peu plus, je pense que ça a pas mal évolué, mais environ 15 000 entreprises qualifiées RGE, les fameuses reconnues garants environnement. Maintenant, je crois qu'on décline plus le sigle, hein, mais c'est RGE, pour la mise en œuvre de pompes à chaleur, de chaudières biomasse, de poêles, de solaire thermique, et de solaire photovoltaïque. En gros, c'est la crème des installateurs dans ce domaine-là, qui ont suivi tout un process de qualification, de formation.
Et du coup, on accueille juste à vos côtés Maxence Olivard, qui est ingénieur du pôle formation chez Qualité ENR, regarde de qualification des professionnels. On complète ce qu'a dit Hugues, c'était plutôt bon.
Oui, c'était plutôt correct.
Merci.
L'objectif de Qualité ENR, c'est la montée en compétence des professionnels du bâtiment, spécifiquement dans le domaine de l'énergie renouvelable, donc avec un volet formation, puis le volet qualification pour justifier des compétences et la capacité des entreprises à répondre aux prestations d'installation.
Ouais, à des compétences, hein, qui sont de plus en plus pointues. Comment Qualité ENR accompagne justement cette montée en compétences des installateurs ?
À travers le dispositif de formation qui est encadré par Qualité ENR avec un réseau de formateurs agréés, c'est-à-dire que les personnes qui souhaitent former les installateurs dans le domaine des énergies renouvelables, donc par thématique, pour les pompes à chaleur, pour les poêles, etc., sur chaque thématique, les formateurs doivent avoir un agrément délivré par Qualité ENR. Donc il y a des jurys qui sont mis en place pour évaluer leurs compétences pédagogiques et techniques. À côté de ça, les centres de formation qui animent les formations pour les installateurs doivent répondre à un cahier des charges. Donc il y a un certain matériel à mettre en place pour réaliser les travaux pratiques. Il y a un dispositif qualité qui est nécessaire. Il y a un support de formation à mettre en place pour évoquer toutes les thématiques importantes, pour conseiller le client pour l'installation d'une pompe à chaleur, pour la mise en œuvre de la pompe à chaleur et pour l'entretien de la pompe à chaleur. Donc du début à la fin de la prestation d'installation. Et donc c'est à travers tout ça que Qualité ENR encadre la formation des professionnels.
Très bien. Ces formations, on peut imaginer qu'elles ont évolué dans le cadre des qualifications, peut-être sur le fond, sur la forme également, puisque bah, ça a pu être compliqué pendant une période de crise sanitaire de former tous les gens. Comment ça s'est déroulé ?
Alors, sur le premier confinement, c'est un arrêt total des formations pendant 2 mois, parce que les formations prévoient systématiquement une partie pratique, donc mécaniquement un déplacement sur le terrain des professionnels. Et donc la réglementation en vigueur à l'époque ne permettait pas les formations. Ce n'était pas le cas sur le deuxième confinement. Mais dans tous les cas, les formations évoluent au fil de l'eau, au fil de l'évolution de la réglementation, des évolutions techniques. Par exemple, dernièrement, il y a eu une évolution du DTU 24.1 sur la fumisterie. Donc on a totalement révolutionné nos supports de formation en ce sens. Et après, vous avez des nouvelles formations qui sont mises en œuvre au fil de l'évolution du marché. Je pense au photovoltaïque, avec l'arrêté de 2017 qui a d'une part poussé les personnes à s'orienter vers l'autoconsommation. Donc on a créé un module spécifique sur les sujets d'autoconsommation, un module en ligne ou en présentiel.
C'est quoi l'autoconsommation là pour ceux qui nous écoutent?
L'objectif de l'autoconsommation, c'est je consomme ma propre d'accord, production photovoltaïque au lieu de la revendre. L'objectif, c'est que j'optimise mon installation photovoltaïque pour consommer un maximum. Et donc avoir une part d'indépendance. Donc il y a ça, qui a été créé par Qualité ENR en 2017. Et vous avez aussi un module pour les grandes installations photovoltaïques. Historiquement, Qualité ENR était orienté sur le domestique. Petit à petit, notamment sur le photovoltaïque, on propose des formations et des qualifications pour les grandes installations.
En termes de volume, tiens, justement, de formation, combien de gens sont formés chaque année ? Est-ce que vous avez des chiffres ?
Alors, ça évolue beaucoup, surtout ces dernières années. En 2021, 12 000 personnes ont été formées par le réseau de centres de formation de Qualité ENR, principalement sur la pompe à chaleur. On a la moitié de ce volume-là qui était formé sur la pompe à chaleur, parce que c'est le marché qui fonctionne beaucoup en ce moment. Et après, c'est 2000 personnes sur le photovoltaïque et 2000 personnes sur le bois.
Ah oui, c'est énorme, donc environ 15 000 personnes, un petit peu plus. Comment justement, avec un tel volume, vous veillez à la qualité, l'homogénéité des formations ?
Alors, c'est un travail de tous les jours, ça nécessite d'avoir un bon réseau. Donc, il y a un dispositif d'audit qui est mis en place. Donc, moi, je suis en charge des audits des centres de formation. Donc, chaque semaine, je vais sur le terrain pour voir comment ça se passe. Pendant la formation, ça permet de rencontrer les professionnels du terrain, déjà, et de voir comment ça se passe au niveau des formateurs et des centres de formation. Ça permet de relever des points forts et de les mettre en exergue et de les partager auprès du reste du réseau. Ça permet aussi d'identifier des non-conformités. Ça arrive, on a tous le droit de faire des erreurs. Et donc, c'est une démarche d'amélioration continue. afin que les points soient corrigés. Il y a aussi des contrôles qui sont faits à distance avec une analyse de la donnée qui est faite, et donc ça a permis notamment il y a 2 ans d'identifier des centres de formation éco-délinquants. On a des entreprises éco-délinquantes, mais ça s'est appliqué aussi aux centres de formation parce qu'il y avait un besoin véritable pour les entreprises de se qualifier sur les pompes à chaleur spécifiquement. Et donc l'analyse de la donnée a permis d'identifier ces points-là. Et donc l'action qui a été faite par la suite, c'était une annulation des diplômes concernés. Ça représente plusieurs centaines. Des actions
C'est-à-dire juridiques. Finalement, c'était des formations qui n'en étaient pas vraiment.
C'était des formations qui ne se passaient je ne sais comment. C'est-à-dire avec je ne sais quel formateur, avec je ne sais quel matériel. Et à partir du moment où on ne respecte pas le cahier des charges prévu par Kélitoner et donc la réglementation, la formation est caduque d'office. Et donc, les entreprises qui ont été concernées ont dû se reformer.
D'accord. Donc, on a un contrôle. C'est bien de le dire. Et ça prouve aussi le sérieux de tout ça. Dernière question, c'est sur le financement. C'est important, ces formations. On sait que ça représente aussi beaucoup d'argent. Comment ces formations sont-elles financées ?
Ça, c'est un point qui est très important, parce que c'est le premier frein pour les entreprises de se former. Le dispositif de qualification prévoit qu'au moins une personne d'entreprise se forme pour avoir la qualification. S'il y en a plus, c'est encore mieux. Et donc, c'est l'objet du financement qui a été mis en place à partir de 2020 avec le fonds FIBAT, le programme FIBAT qui permet de financer 40% du coût de la formation. Et le reste est pris en charge par des organismes de financement de la formation. Donc, je pense notamment à Constructis et FAFCA, qui sont des organismes de financement de la formation dans le domaine du bâtiment. Donc, les entreprises du bâtiment sont éligibles à ce financement-là. Et dans certains cas, on peut avoir une prise en charge qui avoisine les 100%. Donc ça pousse les entreprises à se former d'autant plus, et donc ne pas former uniquement le patron, mais aussi les techniciens de la société.
Et bien sûr, plus il y aura de gens formés, évidemment, et puis ça sera simple aussi à déployer sur le terrain, avec beaucoup moins d'erreurs que si c'est l'homme, qui a vu le formateur, qui forme ses collègues. Merci beaucoup, Maxence Oliver, c'est très clair. Je rappelle que vous êtes ingénieur du pôle formation chez Kélitoner, donc organisme de qualification des professionnels. Tout de suite, on passe à la rubrique suivante, les awards de l'innovation.
En attendant Interclimat, les awards de l'innovation.
Les awards de l'innovation, on parle d'ADEI, innovation qui sera présent à Interclimat pour cette édition 2022. ADEI qui avait participé au concours de l'innovation avec une solution de traitement d'eau connectée, MagnaClean Professional 3. Professional 300, c'est ce qu'on m'a marqué en tout cas, mais je vais me tourner tout de suite vers notre invité qui va nous décrire tout ça. C'est Jordan Mercier, vous êtes directeur commercial justement France d'ADEI. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette solution révolutionnaire qui avait été présentée en 2019 ?
Bonjour à tous. Alors tout d'abord, merci de m'accueillir à l'occasion de cette émission. Alors toutes mes excuses, les conditions font que je suis au Congrès national du CINASAV qui réunit les professionnels de l'entretien dans le domaine du génie climatique et pour le coup, vous voyez, je fais cette émission dans la voiture. Donc le Pro 3, le filtre qui a été proposé, eh bien tout simplement, c'est un filtre pour réseau de chauffage. Il se trouve que l'embouage et la corrosion des réseaux de chauffage sont responsables de plus de 70 à 80% des pannes prématurées et des surconsommations dans le domaine du chauffage central. Et le filtre Pro 3 a vocation à piéger ces fameux débris et ces boues dans les réseaux de chauffage. Alors pourquoi connecter ? Eh bien tout simplement parce qu'à l'heure où le moindre kilowattheure voit son prix exploser, mais il n'y a pas de petite économie. Et il est de plus en plus important d'anticiper les pannes, et cette filtration connectée était parce qu'on ne l'a pas commercialisé en ce sens que c'était un produit qui avait vocation à faire vitrine technologique et il a porté ses fruits pour plein de raisons que je m'empresserai de vous présenter. Mais en tout cas, il intégrait d'ores et déjà la logique de maintenance prédictive dans le domaine du génie climatique, fût-il dans le résidentiel ou dans le collectif.
Voilà, du coup, vous avez présenté cette innovation qui n'a pas été finalement commercialisée, en tout cas en France, mais qui a servi de prototype finalement sur d'autres produits dans d'autres pays.
Alors absolument, en fait, le Pro 3 a été commercialisé sur notre marché natif, qui est le marché anglais. Hein, donc là-bas, il est hors de question d'appuyer sur le bouton vert d'une chaudière ou d'une pompe à chaleur sans être en mesure de prouver que le circuit est traité, protégé et sur lequel on a posé un filtre. En France, il nous a servi notamment à présenter notre technologie Sense, c'est-à-dire notre technologie connectée, notre écosystème, et ça a abouti chez nous, notamment à la sortie d'un produit qu'on appelle le ProCheck. Alors le ProCheck, en fait, c'est un écho. Je vais faire très très court, mais l'arrêté du 24 juillet 2020 rend dorénavant obligatoire pour les sociétés en charge de la maintenance annuelle des réseaux et des générateurs, rend obligatoire le contrôle de l'embouage ou en tout cas de l'état de santé des réseaux. Et jusqu'à aujourd'hui, les sociétés en charge de la maintenance, j'en ai la preuve aujourd'hui à travers les discussions que j'ai pour mon salon, me disent mais moi j'ai aucune arme, je suis pas biochimiste, je suis pas chimiste, je suis chauffagiste, donc le traitement de l'eau je connais pas trop, je sais comment on fait mais je sais pas comment l'expliquer. Donc le ProCheck, en fait, c'est un kit d'analyse instantanée. Vous avez une bandelette colorimétrique, vous avez un nuancier de couleurs qui vous permet déjà de comparer ces couleurs, et on les prend en photo avec le smartphone en ayant créé son compte bien évidemment, et instantanément on a un résultat d'analyse qui nous donne l'état de santé du réseau, ce qui se passe, et surtout on a une préco personnalisée. Ça permet de l'envoyer au client final ou au secrétariat pour rédaction des devis. Donc l'idée, c'est vraiment de simplifier l'approche globale et de transformer une contrainte réglementaire en une solution du quotidien pour les sociétés de maintenance et les installateurs.
Ah, c'est très intéressant comment justement cette contrainte réglementaire est vécue. Bah, soit on la subit, soit on s'en empare finalement, et ça devient une opportunité et une nouvelle source peut-être de business. Alors vous avez décidé, Jordan, de ne pas participer au prix de l'innovation 2022 sur cette édition Interclimat. Pour autant, vous avez déjà remporté un prix de l'innovation BTP 2022.
Absolument, on a été élu produit, alors le ProCheck notamment, mais un autre produit qui s'appelle l'Atome 2 chez nous, qui est un filtre magnétique pour chaudière murale et qui présente une très grande flexibilité. On a été élu produit de l'année BTP 2022 par Sageret, qui peut être considéré comme étant un annuaire auprès de professionnels, autant de maîtres d'ouvrage que des bureaux d'études ou autres, hein, dans notre domaine du génie climatique. Et on a été élu produit de l'année par 77 000 votants, donc ça a été une très très grande fierté. Comme en 2019, on avait participé à l'Award de l'innovation Interclimat, ben ça nous a permis de bénéficier d'une belle vitrine, d'une belle caisse de résonance. Mmh. Et cette récompense par Sageret est aussi un aboutissement, dans le sens où le ProCheck, si vous me permettez l'expression, sonne un petit peu la fin de la récré dans notre profession, puisqu'il permet vraiment de simplifier l'approche des professionnels quant à la maîtrise de la qualité d'eau.
Très bien. On vous retrouvera sur le salon en octobre ?
Absolument. Absolument, on sera là avec toute l'équipe, plus motivé que jamais et d'autant plus heureux de pouvoir enfin tous se retrouver physiquement et prendre une revanche sur ces années de frustration qu'on vient de passer, de terminer.
Oui, bon voilà, je vous traduis, on a des sourires tout autour de la table, c'est vrai que tout le monde est bien content que cette période compliquée voilà, soit derrière nous. Le ProCheck, donc, à découvrir sur votre stand AD International. Un grand merci, Jordan, on vous laisse, hein, si vous avez encore de la route à faire. Merci en tout cas d'avoir pris le temps en mobilité de venir. Je rappelle que vous êtes directeur commercial d'AD, de fabricant de filtres et de matériel de traitement d'eau pour les réseaux de chauffage. Allez, tout de suite, on passe à la suite.
Merci à vous.
On passe à notre exposant du mois.
En attendant Interclimat, focus exposant.
Focus exposant, focus qui est relié à l'actualité, hein, puisque avec cette guerre en Ukraine, la question du gaz, l'impact de son prix sur la facture est plus que jamais sur toutes les lèvres avec GRDF sur le salon Interclimat. Il sera question également du développement du gaz renouvelable, mais pas uniquement. GRDF pousse également les pompes, les solutions de pompes à chaleur hybrides, notamment en rénovation. Pour tout nous expliquer, on est en compagnie d'Emmanuel Bavou. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Responsable du pôle marché, la direction développement délégation marché grand public chez GRDF et bien sûr GRDF, distributeur de gaz naturel en France. Première question, les systèmes de pompes à chaleur hybride, elles apparaissent comme une solution pertinente. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en un mot comment ça fonctionne et pourquoi justement c'est pertinent aujourd'hui ?
En un mot, je dirais astucieux, mais je vais quand même prendre le temps de développer. C'est vraiment la combinaison astucieuse de deux équipements qui sont extrêmement matures, qui sont la pompe à chaleur et la chaudière THPE, qui permettent de faire du chauffage, de l'eau chaude et dans certains cas même du rafraîchissement. Concrètement, ce système, il exploite, quand je vous dis le meilleur de chacune de ces solutions, les caractéristiques intrinsèques du gaz, c'est notamment sa puissance, sa disponibilité. Et du coup, en cas de grand froid, lorsqu'il y a besoin de puissance dans ce système hybride, c'est la chaudière qui produit cette énergie de chauffage et bien entendu l'eau chaude sanitaire. Et puis quand les températures sont plus douces, à ce moment-là, la pompe à chaleur a toute sa pertinence. Et du coup, la régulation intelligente permet de basculer progressivement vers cet équipement. Donc c'est pas du l'un ou l'autre, il y a aussi une phase qu'on caractérise de bivalence qui permet d'avoir les deux équipements en même temps. Et puis pour avoir un système astucieux, il faut aussi optimiser son coût. Et ce qui caractérise une bonne PAC hybride, c'est une PAC hybride avec une puissance raisonnée. On considère que jusqu'à 8 kW de puissance pour la PAC, on a un produit qui est cohérent avec une puissance de chaudière entre 15 et 30 kg. Pour ce chauffage, mais aussi pour l'eau chaude sanitaire avec une disponibilité importante.
D'accord. Du coup, à quel type de client cette solution va-t-elle s'adresser ?
Ah, comme toutes les pompes à chaleur, c'est plutôt un produit qui est destiné au marché de la maison. Alors, il y a deux marchés pour la pompe à chaleur hybride. Il y a le marché de la rénovation, pour des clients qui ont déjà le gaz, notamment, qui ont des besoins de rénovation de leur système et de faire plus d'économies d'énergie. Et puis, vous avez la maison neuve, puisque la pompe à chaleur hybride, c'est un équipement éligible à la réglementation environnementale 2020. Et c'est donc aussi une alternative à d'autres solutions, d'autres types de pompes à chaleur.
Alors justement, on parle beaucoup de la pompe à chaleur électrique. Quels sont les avantages de la PAC hybride ?
Eh bien, l'hybridation, comme je vous l'expliquais, elle permet de choisir la bonne énergie au bon moment. Et c'est cette régulation intelligente qui est au cœur du système qui fait que c'est différent d'une autre solution. C'est une solution qui est bi-énergie. Alors, bien entendu, il ne s'agit pas d'imaginer des pannes sur des équipements, mais en tout cas, d'avoir deux équipements en même temps. En cas de défaillance de l'un, il y a l'autre qui est présent. C'est donc la sécurité du confort de chauffage. En cas de grand froid, ça permet de répondre immédiatement à un besoin de production de chaleur. Une eau chaude, comme je vous disais, qui peut être produite instantanément, donc pas de stockage obligatoire, et vraiment une production à la demande. Et puis c'est une solution qui est compétitive à l'achat dès lors qu'on respecte les critères que je vous indiquais, à savoir de dimensionnement et de puissance. En ayant des puissances raisonnées, on arrive à des coûts d'équipement qui sont comparables à ceux d'une pompe à chaleur électrique. Donc c'est pas, vous voyez, l'addition de deux équipements qui produirait deux fois la somme de deux équipements individuels. Non, si c'est bien dimensionné, on est tout à fait compétitif. D'autant plus que, comme toutes les pompes à chaleur, on bénéficie d'aides à la rénovation, les certificats d'économie d'énergie, MaPrimeRénov, qui permettent également de faire baisser le coût d'investissement. Dans le neuf, c'est parce qu'il faut aussi évoquer le neuf, c'est une solution qui est intéressante parce que si on produit l'eau chaude instantanément, on a moins besoin de place pour le stockage et on sait que les mètres carrés coûtent de plus en plus cher et donc un produit compact, c'est un atout. C'est un produit qui est moins émetteur de gaz à effet de serre qu'une chaudière traditionnelle et qui permet, et là dans une vision peut-être plus collective, de bien passer la pointe électrique, la pointe hivernale. L'avantage de cette pompe à chaleur, c'est qu'elle ne fait pas d'appel de puissance trop important sur le réseau électrique lorsqu'on est en plein hiver, lorsque tout le monde veut consommer de l'électricité. Il y a une sorte d'effacement qui se produit grâce à la pointe du gaz. C'est aussi une solution qui
économique. C'est vrai qu'en ce moment où tout est cher, enfin toutes les énergies deviennent chères, passer de l'électricité au gaz, on a eu des pointes aussi cet hiver, même en tarif régulé, ça peut être compliqué. Est-ce que c'est quelque chose qui peut-être, on comprend bien l'hybridation et l'intérêt. Est-ce que aujourd'hui l'argument prix, c'est ce qui freine peut-être les clients pour cette solution qui paraît concilier le meilleur des deux mondes ?
Je dirais que s'il s'agit de faire un appoint, parce que même une pompe à chaleur classique a besoin d'un appoint en cas de grand froid, sans doute que compte tenu des prix des énergies, le gaz est une meilleure solution. Il y a un écart de facteur 2-5 entre le prix du kilowattheure gaz et du kilowattheure électrique. Donc cet appoint gaz est tout à fait justifié également d'un point de vue économique, malgré les hausses que subissent l'ensemble des énergies depuis quelques temps. Mais c'est aussi une solution qui permet de se projeter dans le temps, et vous l'évoquez sur l'aspect économique, mais aussi l'aspect technique. Lorsqu'on rénove un bâtiment, malheureusement, dans un certain nombre de cas, on ne rénove pas immédiatement avec le standard BBC rénovation que tout le monde attend. Et parfois, il y a des étapes, il y a un parcours de rénovation. Si on commence ce parcours par l'installation d'un équipement de production de chaleur, eh bien, parfois, les besoins de la maison vont évoluer dans le temps parce qu'on va faire de l'isolation et commencer par le remplacement de l'équipement de production de chaleur, c'est parfois imposé par la casse d'un équipement, hein, tout simplement. Eh bien, cette pompe à chaleur hybride, elle permet de moduler sa puissance, de s'adapter au fur et à mesure des performances qui vont être grandissantes sur le logement. Donc, elle accompagne le parcours de rénovation. C'est vraiment le produit qui incarne concrètement le mix énergétique dont on parle beaucoup, deux énergies, la meilleure au meilleur moment.
On a à peu près quoi, 5000 packs hybrides qui sont installés en ce moment par an.
Oui,
ça paraît peu par rapport au parc installé. Est-ce que vous avez des projections? Est-ce qu'on peut imaginer que voilà, ce soit un produit qui explose, bon sens du terme, hein, dans les années qui viennent, c'est-à-dire que les Français vraiment s'en emparent?
Dans la famille des pompes à chaleur, effectivement, l'hybride, c'est un peu le petit nouveau. Hein, certains lui prédisent un grand avenir. Notamment dans différents scénarios de la transition énergétique à horizon 2050, que ce soit ceux de l'ADEME ou du réseau de transport d'électricité. On a des chiffres très ambitieux qui vont de 2 à 5 millions de packs hybrides qui pourraient être installés justement pour accompagner concrètement cette transition énergétique au meilleur coût pour la collectivité. La PAC hybride a vraiment un rôle à jouer. Pour les installateurs, parce qu'ils seront présents sur Interclimat, pour eux, c'est une formidable opportunité à saisir dès aujourd'hui. C'est le produit de la transition énergétique, notamment pour ceux qui ont la compétence gaz. Ils savent poser cet équipement. Et donc, moi, je les encourage à rapidement proposer cette solution à leurs clients. Et d'ailleurs, ils bénéficient de ce qu'on appelle une mention délivrée par les professionnels du gaz, qui est une forme de qualification, je rebondis sur ce que vous évoquiez, la mention PG PAC hybride, qui est disponible aujourd'hui pour se former, se différencier. Et je voudrais terminer par un clin d'œil. Il y a quelques jours, les Pays-Bas ont annoncé qu'après avoir pris un virage tout électrique en 2018, ils ont décidé finalement de faire machine arrière parce que les infrastructures ne permettent pas aujourd'hui de répondre aux forts besoins d'électrification massive. Et donc, à partir de 2026, c'est un beau paradoxe hein, dans le monde où on dit « là, attention, le gaz », à partir de 2026, ils réintroduisent des solutions gaz et ils favorisent grandement l'installation de pompes à chaleur hybrides, y compris en logement neuf. Donc, on voit bien que le mix électrique, le mix énergétique a une vraie importance et on doit anticiper les choses, ne pas opposer les énergies, mais utiliser la complémentarité de chacune d'entre elles.
Violaine ?
Oui, je voudrais compléter parce que sur le mot astucieux qui était donné un peu en introduction, je pense qu'on peut prendre le mot agilité également. Dans le génie climatique, on a cet avantage d'être très agile. Et donc, selon les régions, selon les pays, les énergies, les problèmes géopolitiques, on a vraiment toute une palette de solutions qu'on verra sur le salon, bien sûr, mais une palette de solutions qui est vraiment adaptée à chaque besoin, à chaque demande, et voilà, avec ou pas pic de points ou effet de pointe ou autre. Voilà, on a vraiment cette agilité. Donc, il y a de l'astuce et puis il y a de l'agilité.
Et vous voyez, en me présentant, vous disiez distributeur de gaz naturel. Eh bien, je vais vous corriger. C'est distributeur de gaz, puisque aujourd'hui et déjà depuis plusieurs années, GRDF injecte du gaz vert dans les réseaux et distribue donc du gaz vert issu de la méthanisation de sites agricoles principalement. Et c'est pas une vue de l'esprit. C'est plus de 400 sites qui dès aujourd'hui injectent du gaz vert. 2 à 3 sites qui chaque semaine se raccordent au réseau et on a une file d'attente de plus de 1100 sites qui vont être raccordés progressivement. Ça représente l'équivalent d'1,7 million de logements neufs. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est déjà concret.
Très bien, bah écoutez, un grand merci. Je termine juste sur on verra aussi des innovations dans le domaine, pack hybride, des matériels nouveaux là sur Interclimat. Il y a des choses qui vont être présentées.
On sera effectivement beaucoup sur les solutions hybrides parce qu'elles peuvent être plurielles. On parlera sans doute d'hydrogène qui fait partie de la famille des gaz verts et puis de méthanisation.
Merci, c'était très clair. Emmanuel Babou, responsable du pôle marché à la direction développement délégation marché grand public chez GRDF, distributeur de gaz naturel et renouvelable donc en France. Tout de suite, on passe à notre expert du mois.
En attendant Interclimat, le mot de l'expert.
Le mot de l'expert, bon, on a parlé du gaz, on a parlé de l'électricité, on va parler maintenant hydrogène, hein, une énergie propre d'avenir, il en est question en tout cas pour les véhicules, la mobilité, et il en est également question en matière d'énergie de chauffage. On fait le point avec Emmanuel Léger, vous êtes ingénieur commercial au CETIAT, référent technique solaire thermique. Emmanuel, pourquoi l'utilisation d'hydrogène comme énergie de chauffage est-elle une solution envisagée pour l'avenir? Est-elle viable? C'est vrai que c'est nouveau d'entendre parler effectivement pour les véhicules. Pour le chauffage, ça marche?
Oui, alors GRDF vient de l'évoquer. Effectivement, c'est une énergie qui est facilement utilisable via le réseau de gaz naturel actuel, puisqu'en fait, on peut utiliser la combustion de l'hydrogène dans les chaudières domestiques ou les installations industrielles. C'est une énergie donc qui, a priori, n'émet pas de gaz à effet de serre, du moment qu'on la produit avec des énergies renouvelables ou non carbonées. Donc, et le réseau existant, bah, autant utiliser ce capital avec des énergies propres, le réseau de gaz existant. Donc, c'est une énergie adaptée, sans trop de difficultés. Il y en a quelques-unes, mais justement, on est là pour ça, pour les soulever et
d'accord,
pour les résoudre.
On rentre un petit peu dans le concret. Comment on fait pour l'acheminer, par exemple, comme le gaz naturel? C'est fait par un réseau de distribution, c'est possible?
Alors c'est possible, effectivement, il y a déjà des expérimentations qui prouvent qu'on peut injecter jusqu'à 20% d'hydrogène dans du gaz naturel, tel que ça a été montré par exemple à Dunkerque, le CETIAT y a participé, avec GRDF, c'est-à-dire qu'on a injecté sur tout un quartier de l'hydrogène, avec la vérification des matériels existants, donc des chaudières qui sont sur le quartier, des plaques de cuisson, tous les appareils de cuisson. Et le retour d'expérience est positif, c'est-à-dire qu'on est capable de le faire. Et en Grande-Bretagne, où ils sont encore un peu plus en avance que nous sur le sujet, il y a d'autres expérimentations qui ont été faites et qui montrent aussi, qui étaient surtout focalisées d'ailleurs au départ sur la dangerosité de l'hydrogène, le ressenti, voilà, de la dangerosité de l'hydrogène. Et qui ont montré que quand on connaît toutes les précautions, en fait, c'était pas plus dangereux que le gaz naturel.
D'accord.
Du moment qu'on n'en met pas immédiatement 100% dedans. C'est-à-dire que là, il va falloir un peu plus réfléchir si on veut aller jusqu'à 100% d'hydrogène dans le réseau.
D'accord. D'autant que le stockage est possible. Qu'en est-il du pouvoir calorifique? Est-ce qu'il est le même que du gaz?
Alors, non, en fait, malheureusement, il est quand même moindre pour un même masse, en fait. Il est trois fois moindre à peu près que le gaz naturel. Donc, si on voulait le stocker, il faudrait en gros trois fois plus de volume, donc c'est pas si évident. Alors pour les industries lourdes qui sont a priori les premières peut-être intéressées par l'hydrogène, on peut penser qu'ils pourront produire l'hydrogène directement à proximité, voire eux-mêmes, et qu'ils pourront peut-être stocker avec des moyens quand même, des infrastructures peut-être coûteuses et très perfectionnées. Pour le particulier, ça peut certainement à long terme être envisagé avec des nouveaux matériaux, notamment pour les cuves de stockage. Mais actuellement, on a quand même cette difficulté de la capacité énergétique contenue dans un mètre cube d'hydrogène par rapport au gaz naturel.
C'est intéressant parce que ce sont à peu près les mêmes objections qu'on entend, par exemple, pour le véhicule, à savoir qu'un véhicule particulier, c'est assez compliqué avec l'hydrogène, même s'il y a des expérimentations en cours. En revanche, pour des gros véhicules, on pense au bus ou au train, ça serait tout à fait indiqué. Alors, on revient à ce qui nous intéresse. L'hydrogène s'annonce, on le sait, comme une énergie propre. Est-ce qu'elle sera renouvelable?
Alors, tout dépend de la façon de la produire et de la consommer. En France, a priori, on est quand même plutôt parti sur l'électrolyse de l'eau à base d'électricité. Donc, si l'électricité est verte, éolienne, hydraulique, solaire, oui, on aura de l'hydrogène vert. On peut aussi utiliser le surplus d'électricité nucléaire. Donc là, on parle d'hydrogène bleu, d'ailleurs, et plus vert. Puisque là c'est décarboné, donc est-ce qu'on peut dire que c'est renouvelable? Non, mais c'est décarboné. Après, il y a d'autres pays qui ont plutôt choisi en Europe la solution du vaporéformage du gaz naturel, parce qu'en fait, ils disposent de gaz et ils disposent surtout de capacité de stockage du CO2 qui est produit lors de la production d'hydrogène par cette méthode. C'est-à-dire que si on ne stocke pas le CO2 en utilisant du gaz naturel pour faire l'hydrogène, là, on pollue. Donc, on n'est pas,
mais oui.
C'est pas vertueux, en fait.
Donc, on pourrait produire avec d'autres énergies. On pense à l'éolien, l'hydraulique, le photovoltaïque.
C'est ça, du moins qu'on produit, ouais. L'hydrogène par électrolyse avec de l'électricité renouvelable. Effectivement, là, dans ce cas-là, on aura de l'hydrogène vert.
Il y a déjà des applications industrielles concrètes qui sont, voilà, des entreprises qui utilisent cet hydrogène ou qui sont en capacité de le produire?
Alors, à ma connaissance, je connais pas assez, je pourrais pas dire qui. Forcément, il y a des expérimentations qui existent, puisqu'en fait, des électrolyseurs existent, quelle que soit l'électricité qui arrive. Hein, donc, des électrolyseurs sont plutôt actuellement de grosses puissances. Il y a des développements en cours pour des petits électrolyseurs, voire des électrolyseurs domestiques, c'est-à-dire produire son hydrogène à base d'électricité
à la maison.
Bon, après, le coût, j'imagine quand même qu'il doit être très élevé. C'est uniquement en cours de développement actuellement. Ce n'est pas actuellement les électrolyseurs, on va dire, les premiers, comme ça, que je dirais, qui vont se mettre sur le marché, ce sera plutôt pour des industries qui ont les moyens voire des zones industrielles qui vont se mettre en commun pour produire cet hydrogène localement et le consommer localement.
Voilà, on ne trouvera pas encore des kits pour faire son hydrogène à la maison tout seul. Peut-être ça viendra.
Peut-être.
On verra. Les conditions justement de développement de cette énergie en chauffage, quelles sont-elles?
Alors les conditions, la première, surtout pour que les industriels développent des produits, c'est la disponibilité de l'hydrogène. C'est-à-dire que donc l'hydrogène, on en a besoin pour l'industrie, par exemple. Il faut qu'il est utile par rapport à un industriel. Voilà, le choix entre transformer son appareil à gaz naturel par un système électrique ou de l'hydrogène. Mais dans certains cas, on a besoin d'une flamme et d'une haute température. Donc l'électricité peut pas fonctionner. Donc un industriel qui veut développer un four de process, pour qu'il en développe au niveau européen, qu'il sache qu'il va vendre ce produit, il faut qu'il soit sûr que l'hydrogène soit disponible sur le site industriel. De même que pour les fabricants de chaudières, ils sont certains qu'il y aura au moins 20% d'hydrogène dans le réseau à terme, bien évidemment, ils vont tous développer des systèmes permettant de le faire. Donc c'est vraiment la disponibilité, donc c'est une décision politique en fait. Alors en 2020, une loi a été votée pour appuyer et financer le développement de l'hydrogène en France. Dans d'autres pays européens, c'est le cas aussi. Donc on peut penser que les pouvoirs publics vont soutenir ce développement.
Comment on se positionne par rapport à l'Europe, nos voisins, peut-être plus en avance, plus en retard, la France?
Alors,
est-ce qu'il y a des pays justement en avance
Je le disais tout à l'heure, effectivement, les Anglais sont un peu plus en avance, parce que dès le début, enfin depuis un moment, ils ont donc vu qu'ils pouvaient produire de l'hydrogène à partir de gaz naturel dont ils disposent en mer, et qu'ils ont des cavités pour stocker le CO2 produit à cette occasion. Les Allemands sont un peu aussi attentifs comme nous par rapport aux décisions politiques. C'est-à-dire que est-ce qu'on aura de l'hydrogène, tout dépend en fait de ces décisions politiques. Je dirais qu'au niveau européen, il n'y a pas forcément un pays qui est plus en avance que en France. On suit le mouvement et on n'est pas en retard en fait. Voilà.
Bon, très bien.
C'est ça qui est déjà.
C'est déjà pas mal. On est dans la bonne moyenne, on va dire européenne, mais c'est vrai que on aura besoin de cet agenda aussi politique qui donne souvent le là, peut-être avec des aides, etc. pour développer l'hydrogène en tout cas. Hugues.
Ouais, je me demandais si la décision politique c'était aussi arbitrée entre le développement de l'hydrogène dans la mobilité justement et puis le développement de l'hydrogène dans le chauffage. Est-ce qu'on pourra faire les deux en fait? C'est une question que je me posais.
Voilà, que vous allez poser bien sûr au nouveau gouvernement.
Lorsqu'on abordera cette question sur le salon Interclimat, sûrement.
D'ailleurs, tiens, petite question subsidiaire. Il y aura justement le ministre des politiques qui feront le déplacement. Vous avez convié.
Ah ben, on espère bien. On va faire tout pour ça. On a plein de sujets pour eux, de la formation, du recrutement, puisque les métiers du génie climatique recrutent depuis des années et ça s'est encore amplifié ces derniers temps. On manque de bras, on manque de compétences, on manque donc voilà, on va travailler sur ce sujet-là. Et puis après, il y a tous les sujets dont on vient de parler, l'énergie, voilà, on est au cœur des problématiques de l'énergie dans le bâtiment. Donc oui, on compte bien ce qu'ils viennent nous voir sur le salon, qu'on puisse échanger avec les professionnels. Donc nous, on fera tout pour ça. Et après, c'est toujours un peu délicat avec les ministres d'arriver à les avoir longtemps, suffisamment pour discuter, pour échanger. Donc, avait réussi en 2019. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas cette année avec encore de beaux sujets. L'Aéro 2020 qui vient d'entrer en vigueur avec ces sujets sur le gaz renouvelable qui va se développer avec la biomasse. On aura aussi la biomasse, c'est de bons sujets. Enfin voilà.
Et puis pas d'excuses, c'est à Paris, donc porte de Versailles.
Tout à fait. Pour eux, ça sera beaucoup plus facile aussi.
C'est beaucoup plus facile que d'aller tout au nord de Paris. Un grand merci à tous nos invités. Emmanuel Léger, ingénieur commercial au CETIA. Merci, c'était très clair. Emmanuel Bavou, responsable du pôle marché, direction développement, délégation marché grand public chez GRDF. Merci. On avait également en duplex de son bureau mobile, Jordan Mercier, directeur commercial d'ADE. Maxence Oliver, merci, ingénieur du pôle formation chez Qualit ENR. Violaine, bien sûr, qui reviendra très prochainement. Violaine Adolgast, chargée de communication, responsable technique, filtration et épuration pour la qualité de l'air chez Uniclimat. Et bien sûr, Hugues Jens, mon co-animateur chargé de mission Interclimat 2022 par Uniclimat. On se retrouve très prochainement pour le prochain numéro. Ce sera en juillet. En attendant, Interclimat, excellente journée à tous et à très bientôt.
En attendant, Interclimat, une émission à réécouter et télécharger sur Bâti Radio et sur toutes les plateformes de streaming.